La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau aujourd'hui avec Geneviève Garguir qui nous a parlé la semaine dernière de son expérience dans le suivi des cosmonautes qui sont partis sur des vols soviétiques puis russes. Et elle nous a raconté l'ambiance des relations franco-russes. Geneviève, cette collaboration franco-russe s'est terminée juste après, je crois, le vol de Claudie Aigneret. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est terminé à l'époque ?
Alors, ça s'est terminé, enfin, les vols directs avec les Russes, parce que Claudie Aigneret a volé en 2001 sur la station internationale. C'est-à-dire que les Russes n'avaient plus la station Mir, ils l'avaient fermée, si je puis dire. Et donc, ils intégraient maintenant le programme international de l'ISS, l'International Space Station. Et dans le programme ISS, donc de la station internationale, les partenaires de la station internationale, il y avait les Américains, il y avait l'Europe, c'était pas la France, c'était l'Europe qui était représentée par l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, puis le Japon et le Canada.
C'est ça, c'est intéressant de bien comprendre que cette collaboration franco-russe dont tu nous as parlé était vraiment franco-russe, c'est la France,
oui,
et pas l'Europe. C'était, et ensuite, c'est devenu une collaboration européenne à partir du moment où il y a eu la Station Spatiale Internationale.
Exactement, voilà, c'est la Station Spatiale Internationale qui a redistribué les cartes, si je peux l'exprimer comme ça, qui a effectivement mis en place des nouvelles règles de coopération entre les différents pays.
Et toi, tu étais chef de la division des vols habités au CNES, oui. Et donc tu avais des projets à la fois, avec les Russes, on en a parlé la semaine dernière, mais aussi à partir de l'ISS avec les Américains, la NASA et par l'intermédiaire de l'ESA aussi, l'Agence spatiale européenne.
Alors, la coopération avec les Américains a démarré avant l'ISS. Hein. Parce que par exemple, quand il y a eu le vol de Jean-Luc Chrétien, donc en 82, soit sa doublure, Patrick Baudry, évidemment, n'avait pas volé côté russe. Donc, c'est à ce moment-là, très vite, c'est en 85, que la NASA nous a proposé, a invité Patrick Baudry à voler côté américain sur la navette Discovery. Donc, c'est là où a commencé, effectivement, les vols d'astronautes français côté américain. Et après, donc, dans le pool d'astronautes que l'on avait, ils n'ont pas pu tous voler côté russe. Par contre, certains ont volé donc côté américain dans le cadre de ces coopérations avec les États-Unis, notamment Jean-Jacques Favier a volé sur la navette Columbia, Jean-Luc Chrétien a revolé côté américain sur la navette Atlantis, Michel Tonini sur la navette Columbia et Philippe Perrin un peu plus tard aussi. Donc il y a eu des vols qui se sont faits côté américain d'astronautes français. La différence, c'est que le contexte était complètement différent. C'est-à-dire que, autant côté russe, on négociait vol après vol, on négociait un vol complet d'un astronaute avec tout un programme scientifique qui allait avec, un programme scientifique collaboratif avec les Russes, autant côté américain, ils faisaient voler un astronaute.
Et c'était eux qui choisissaient l'astronaute ?
Oui, c'était eux qui choisissaient l'astronaute, absolument. Et ce n'était absolument pas couplé avec une coopération scientifique. C'est-à-dire que c'était un vol d'un astronaute français.
C'est-à-dire, si j'ai bien compris, vous aviez des astronautes qui volaient, vos astronautes français, c'était une chose. Mm-hmm. Et vous aviez des expériences scientifiques avec les Américains. Alors, c'était autre chose, ce n'était pas forcément corrélé, c'est ça ?
Non, ce n'était pas corrélé. Alors, côté américain, donc, on a des astronautes qui n'ont pas volé, qui n'étaient pas dans les vols côté russe, ont été côté américain, mais ils étaient donc sur la base d'entraînement côté américain, comme Favier ou comme Tonini à ce moment-là, mais c'était simplement donc des vols. Mais en parallèle, il y avait des coopérations avec les États-Unis sur des coopérations scientifiques, mais qui n'étaient pas du tout corrélées avec les vols. Par exemple, on a eu beaucoup de coopérations sur des expériences sur les matériaux et sur la physique des matériaux et sur la physique des fluides. On a développé des fours pour faire des expériences en physique des matériaux.
Des fours pour faire fondre des matériaux en microgravité dans l'espace, c'est ça ?
Alors, ces fours, je ne suis pas une experte dans le domaine, mais ces fours, c'était pour faire des études de solidification des alliages métalliques et de croissance cristalline, donc des semi-conducteurs. Et donc, ces fours, on a eu plusieurs, la GHF, puis Mephisto. C'était des expériences assez importantes avec des équipes scientifiques américaines et françaises qui travaillaient sur ces fours. On a eu aussi des expériences en sciences, en physique des fluides. C'était donc notamment des études sur la recherche sur les fluides critiques et sur les interfaces liquides-solides, on appelle ça le comportement des fluides près du point critique. Et pour ces expériences, on a développé des instruments comme ALICE, par exemple, ou comme DECLIC. Et ces expériences-là, également, étaient donc des collaborations entre des équipes scientifiques françaises et américaines. Et ces expériences ont volé plusieurs fois côté américain, sur différentes navettes, mais de manière complètement indépendante des vols des astronautes.
Jean-François Clairvoyt, lui, qui est allé réparer le télescope spatial Hubble.
Alors, Jean-François Clairvoyt, en fait, très vite, il est parti côté ESA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on avait quelques astronautes qui volaient côté américain ou d'autres côté russe, il y a des astronautes français qui, pendant cette période-là, ont été recrutés par l'ESA. Parce que l'ESA a donc recruté des astronautes dans les différents pays européens, évidemment. Et donc Jean-François Clairvoyt, notamment, et Léopold Layard ont été recrutés. Ils étaient donc français, mais ils ont été recrutés par l'ESA. Donc ils sont passés côté ESA. Donc quand ils ont volé, eux, ils ont volé côté américain, donc sur la navette. Mais sur des contrats ESA. Et ils ont fait des vols très très importants. Jean-François Clairvoyt a été un astronaute qui a volé 3 fois, qui a fait des sorties extravéhiculaires, qui a fait vraiment des choses magnifiques, et notamment la réparation du télescope.
Oui, parce que le télescope Hubble, c'est quand même très spécial. C'était un télescope, maintenant c'est fini ces missions-là, mais c'est un télescope qui avait une maintenance technique et des réparations sur place en vol. C'était quand même extraordinaire, ça.
Et pour ça, pour ce type de vol, effectivement, c'était la NASA qui choisissait les astronautes et qui les formait.
Et maintenant, à notre époque, alors Thomas Pesquet, par exemple, c'est toujours pareil,
alors,
ou c'est
Thomas
un peu
Pesquet,
différent?
Maintenant, de toute façon, depuis 2002, on a plus d'astronautes CNES. Les astronautes français, ils sont des astronautes ESA, des astronautes européens d'origine française, mais des astronautes européens. Là, donc, ce sont des missions qui sont entièrement pilotées par l'ESA. Donc le CNES n'a plus de rôle dans le pilotage de ces missions-là, sur la station spatiale. Je voulais rajouter une chose quand même. Ce qu'on en a retiré, qui existe encore à l'heure actuelle, c'est la notion des USOC.
La notion de quoi tu dis ?
Des USOC. User Support Operational Center. C'est les centres de support opérationnel. C'est ce qu'on appelle le CADMOS au CNES. Ça, c'est un concept important parce que j'en ai pas parlé du tout, mais j'ai dit effectivement que côté russe, tout le suivi des vols se faisait depuis le TSUP, c'est-à-dire le centre de contrôle de Moscou. Mais en parallèle, en fait, ça remonte à pas mal de temps, ça remonte en 89, l'ESA a lancé un appel d'offres européen pour le développement des USOC. Les USOC, c'est des centres de support opérationnel. Et c'est un appel d'offres européen. Donc, le CNES a répondu à l'appel d'offres, de même que les Allemands et les Italiens. Et on a donc pu développer un centre de support opérationnel que nous, au CNES, on appelle le CADMOS, qui est à Toulouse. En Italie, ça s'appelle le MARS, ils l'ont appelé le MARS. Et en Allemagne, ils l'ont appelé le MUSC, voilà. Mais c'est des centres opérationnels et qui servent donc au suivi opérationnel des vols. C'est-à-dire que maintenant encore, ces centres fonctionnent, que ce soit bien en Allemagne, en Italie ou en France, ou au CNES. Et donc, quand il y a des missions spatiales sur lesquelles on a des expériences scientifiques, on peut suivre ces missions depuis ce centre opérationnel et on les suit en temps réel. Voilà. Donc ça continue, le Cadmos continue.
D'accord. Et tu m'avais parlé aussi de médecine spatiale et centre...
Alors la médecine spatiale, en fait, ça remonte au tout début, au tout premier vol habité. Donc on avait les équipes de médicales de l'hôpital de Rangueil à Toulouse, hein, qui a développé donc des compétences dans le domaine de suivi des astronautes. On a même développé à cette époque-là, à cet hôpital, avec le support du CNES, des instruments comme le Doppler ou comme un échographe. Et donc, on a développé ces instruments qui ont été embarqués après dans des vols. Hein. Alors, le MEDES, lui, a continué à avoir une compétence dans la préparation des astronautes, mais surtout à développer donc des mesures avant et après le vol et des mesures de simulation de l'impesanteur, c'est-à-dire par des techniques d'alitement où on alite les gens avec les jambes en l'air. Ça permet effectivement de faire des études sur l'adaptation de l'organisme à l'apesanteur et d'étudier donc ces phénomènes d'apesanteur au sol. Oui.
Donc il y a bien des conséquences pour en France et pour l'avenir de toutes ces expériences de missions spatiales. Et donc,
on ne sait pas comment ça va continuer au-delà de l'ISS.
Oui, là, on va voir ce que nous réserve l'avenir. En tout cas, merci beaucoup Geneviève pour toutes ces informations qui, je pense, vont beaucoup intéresser les auditeurs. Et bonne continuation.
Merci bien.